L'expansion des formes à épisodes, et plus précisément l'inflation du cycle, marque indéniablement la production narrative contemporaine à destination de la jeunesse. Mais force est de constater que dans un secteur émergent comme le théâtre jeune public, qui connaît une expansion éditoriale depuis une trentaine d'années, les personnages qui redéboulent, pour reprendre le titre du deuxième volume de la suite de Fabrice Melchiot, Bouli redéboule, se font plutôt rares. Le retour de Bouli Miro, qui est l'un de ses personnages, et de sa famille, dans la suite de Fabrice Melchiot, et celui de Grosse Patate et de ses camarades dans la saga de Dominique Richard, amorcés toutes deux il y a une quinzaine d'années, augurent-ils d'une contamination du théâtre jeunesse par le phénomène de la sérialité ? Certes, la forte narrativité de la littérature dramatique pour la jeunesse explique que s'y décèle, un peu plus que dans le théâtre dit général, une tendance aux suites. Mais cette tendance au redéboulage des personnages s'avère finalement très timide. Parmi les freins à la sérialité, on peut invoquer des raisons historiques, notamment une appartenance plus marquée du théâtre jeunesse au milieu du théâtre qu'à celui de la littérature jeunesse, où se déploient depuis plus longtemps des univers sériels. À ce manque de familiarité avec la pratique sérielle s'ajoutent des freins économiques, mais aussi des freins structurels, souvent présentés comme inhérents au théâtre. Le manque de consistance du personnage théâtral, en raison notamment de la faible immersion qu'autorise le temps limité de la représentation. Pour justifier le ciblage sur le roman, auquel il procède dans son étude sur l'effet personnage, Vincent Jouve exclut d'ailleurs le personnage de théâtre qui, je cite, « ne s'accomplit que dans la représentation scénique ». Il écarte aussi les acteurs de textes plus courts, comme le conte et la nouvelle, et le théâtre, serait-on tenté d'ajouter, en raison du peu d'épaisseur que leur confèrent les formes brèves. La difficulté dans laquelle se trouve le personnage de théâtre d'assurer à son destinataire une présence insistante et répétitive l'empêche aussi de rivaliser avec les héros de séries télévisées. Finalement, le manque de potentiel addictif du personnage de théâtre est indissociable de la rareté de la sortie au théâtre, pratique socialement élective, et ce même, précise Dominique Pasquier, quand le spectacle jouit a priori d'une très faible légitimité culturelle. Cumulant les obstacles, les personnages de théâtre jeune public ne cherchent donc pas à rivaliser, du moins sérieusement, avec les héros de séries romanesques, télévisées ou cinématographiques. Mais paradoxalement, les contraintes inhérentes au théâtre donnent lieu à une grande inventivité formelle, que ce soit dans la distribution des rôles, souvent économes, mais aussi dans les modalités de retour des héros ou encore dans la construction même des personnages. Dans ce secteur émergent, où la revendication d'auctorialité est très forte, le théâtre jeunesse a longtemps été exclu de la sphère littéraire, les auteurs puisent dans les conventions et les contraintes mêmes du théâtre pour pointer ce qui fait la spécificité et l'intérêt du personnage théâtral, qui se voit ainsi doté d'une dimension éminemment réflexive. Noyau central dans le double dispositif de l'écriture théâtrale et de sa représentation, le personnage s'avère un prisme privilégié pour voir comment le secteur jeune public exploite avec virtuosité et humour les effets de série pour interroger son propre devenir, ses conditions de production et de diffusion. Notre corpus initial sera constitué du cycle Bouli Miro, le premier des quatre volumes de Fabrice Melchiot, est d'ailleurs le premier texte théâtral jeunesse à faire son entrée au répertoire de la Comédie-Française en 2003. Et, deuxième élément du corpus, la saga de Grosse Patate, dont l'un des volumes, Les discours de Rosemary, a obtenu le Grand Prix de littérature dramatique pour la jeunesse en 2018. Mais parce que les effets de série et la réflexivité qu'ils occasionnent ne se limitent pas aux personnages de série proprement dites, nous ferons également quelques incursions dans des œuvres non sérielles. Surjouer la carte du serial loser, des personnages ouvertement déceptifs. Plutôt que de chercher à imiter les personnages de série présents sur d'autres supports, le personnage de théâtre jeunesse assume volontiers ses lacunes. En témoigne le titre triplement déceptif d'une pièce de Joseph Danan intitulée « Les aventures d'Oren, le petit serial killer » paru en 2003. Le pluriel « les aventures », la consonance anglo-saxonne du prénom du héros et l'annonce d'homicide réitéré mettent sur la voie de la sérialité. Le lecteur devra pourtant se contenter d'effets de série dans ce seul et unique volume. Et l'auteur semble faire porter le chapeau de l'échec sériel à son personnage. En effet, l'incapacité dans laquelle se trouve Oren, le personnage, d'avoir dans sa bibliothèque ou sa vidéothèque une série au complet, semble lui fermer les portes de la série. Ce jeu autour de l'élément manquant de la série est au cœur du dialogue entre Oren et le grand lézard, qui dresse l'inventaire des objets que lui propose l'adolescent comme contre un revolver. Non seulement Oren a prêté Scream 2, mais on lui a volé le tome 2 des Trois Mousquetaires. Donc voilà ce que donne le dialogue. Un canif, tu devrais le garder, on ne sait jamais. Une vidéo de Scream, une vidéo de Scream 3, tu n'as pas la 2 ? Je l'ai prêté. Un jokari, une paire de bretelles, des boutons de manchette en or, un album des aventures de Bécassine, les Trois Mousquetaires tome 1, les Trois Mousquetaires tome 3, tu n'as pas le tome 2, on me l'a volé. La lecture métatextuelle à laquelle se prête volontiers cet échange de répliques érige le ratage sériel en marque de fabrique du théâtre jeunesse. Et même quand on a affaire à une série, comme la saga des âges transitoires de Dominique Richard, les héros, grosse patate, Rémi, Hubert, Rosemary, frappent par leur caractère évanescent. Et dire de Rémi qu'il est une vraie passoire au football ou de la cervelle de Rosemary que c'est, je cite, un gruyère, revient à doter les personnages d'une dimension réflexive. Le lecteur est effectivement renvoyé à la composition même de cette saga théâtrale lacunaire, rejetant l'ambition de totalité au profit de la fragmentation des identités. Si le fait qu'un personnage mineur dans un volume accède au rôle principal dans un autre volume peut se lire comme un écho très atténué du principe du spin-off, la répartition des personnages par volume, assez capricieuse, un volume consacré à Grosse Patate, deux à Rémi, deux à Rosemary, un à Hubert, atteste de la défiance de l'auteur à l'égard de la pratique sérielle, dans laquelle il décèle sans doute un risque de formatage. C'est le terme de réseau et non de série que l'auteur Dominique Richard, lors d'un entretien, utilise d'ailleurs pour qualifier l'univers flottant dans lequel se croisent, s'esquivent et se retrouvent, mais de manière non appuyée et non systématique, les quatre camarades de classe. La déceptivité à l'œuvre dans cette saga prend appui sur les conventions mêmes du théâtre, à commencer par la liste des personnages en début de volume, qui, rappelons-le, ne mentionne que les noms des personnages qui sont présents sur scène. Or, la saga de Dominique Richard repose avant tout sur la série rétrospective des événements par le personnage titre, la saisie, pardon. Or, la saga de Dominique Richard repose avant tout sur la saisie rétrospective des événements par le personnage titre, qui, selon les volumes, nous fait partager ses souvenirs, son journal intime ou ses rêves. Il n'est dès lors pas étonnant que les trois autres camarades de classe, qui n'existent qu'à travers le prisme de la mémoire et de la subjectivité du héros du volume, soient absents de la liste des personnages, au risque de décevoir le lecteur, qui s'attend à retrouver très vite les personnages des volumes précédents dès le seuil de la pièce. L'auteur joue sur un dépouillement extrême dans la distribution. Contrairement aux attentes du lecteur, Grosse Patate et Rosemary ne sont pas mentionnées dans cette liste des personnages, alors même qu'elles étaient les personnages titres des précédents volumes. La mise à mal donc de la récurrence des personnages, principe constitutif de la sérialité, permet ainsi à l'auteur de pointer les conventions spécifiques au genre théâtral. Libre au metteur en scène de suivre la distribution minimaliste de la liste des personnages ou au contraire de représenter en chair et en os les personnages secondaires du volume, évoqués donc uniquement dans la mémoire du personnage cité. Cette présence en creux des personnages secondaires est contrebalancée par la démultiplication du héros éponyme de chaque volume dans une série de miroirs. Le personnage dont on explore l'intimité se dédouble dans la glace de la salle de bain, on parlait de miroir tout à l'heure hein, d'ailleurs, mais aussi ses amis imaginaires, ses rêves, etc. L'insertion d'éléments hétérogènes dans les volumes, pages de journaux intimes, récits de rêves, toiles de maître, donne lieu à des volumes hybrides dans lesquels la fable, délinéarisée, épouse la quête identitaire méandreuse des personnages. La saga de Grosse Patate s'apparence ainsi à un palais des glaces de fêtes foraines où la stabilité du moi est mise à rude épreuve. Comment ne pas voir dans les multiples dispositifs introspectifs mis en œuvre par Dominique Richard un pied de nez à l'argument doxique qui tient pour acquis que le personnage de théâtre n'a pas de profondeur. Dominique Richard, dans des volumes parfois très courts, où les personnages censés faire leur retour sont absents ou à peine esquissés, titille le lieu commun qui voudrait que la série ne prenne pas au théâtre. Défiant cet échec sériel, posé comme un a priori du théâtre, l'auteur s'attache plutôt à décliner à l'infini la série d'identités que recèle en eux chacun des personnages de la série. De même, il est tentant de voir dans l'obésité du personnage qui initie la série, grosse patate, une manière de prendre au mot ceux qui estiment que le personnage de théâtre manque d'épaisseur. Loin d'être anecdotique, ce surpoids concerne aussi Bouli Miro, doté, comme grosse patate, d'un nom tenant lieu de fiche d'identité. Outre la référence intertextuelle au gros père Ubu de Jarry, héros d'un cycle théâtral, l'obésité de grosse patate, la prise de poids exponentielle de Bouli, mais aussi sa myopie, métaphorisent de manière frappante les handicaps avec lesquels le théâtre doit négocier pour relever le défi de la série. Sans doute faut-il voir aussi dans le nom Bouli Miro un clin d'œil à notre rapport boulimique aux séries. À défaut de rendre son public addict, Bouli Miro présente des héros accros à la paella, au tabac ou encore au soap opéra. Si l'addiction des personnages est un sujet fréquent dans les séries, elle se doterait donc aussi dans le théâtre jeunesse d'une fonction compensatoire non dénuée d'autodistance. Cette démarche, consistant à faire avec les moyens du bord et à jouer la carte artisanale, s'accompagne d'une adhésion ludique au lieu commun selon lequel les Américains seraient plus doués que les Français pour les séries. Le réalisme en toc, grief souvent retenu contre les séries françaises, est pleinement assumé par l'auteur. Et si la scène où Sharon Stone harcèle Bouli son baby love, prête à rire, c'est avant tout parce que la soudaine notoriété internationale de Bouli Miro, personnage de théâtre français, est totalement invraisemblable. Le jeu sur la distribution, avec Sharon Stone en special guest, fantasmé, je vous rassure, c'était fantasmé, encore chargé de son rôle dans Basic Instinct, pointe en creux le manque de stars et donc de fans dans le théâtre jeunesse. Ériger Bouli en phénomène mondial, à l'origine d'une sociabilité spectaculaire, revient aussi pour l'auteur de cette suite loufoque à cultiver une posture périphérique à l'égard du star system. De toute façon, comment un personnage de série crédible, quand on s'appelle Bouli Miro, et que sa dulcinée Petula Clark porte le nom d'une chanteuse anglaise née en 1932. Comment être un personnage de série crédible ? Le tressage des sonorités franchouillardes, ritales, british et plus globalement l'onomastique est un terrain privilégié pour exploiter joyeusement le complexe d'infériorité des séries françaises à l'égard de la culture sérielle américaine. Le ratage sériel, concocté par l'auteur, est en gestation dans la nomination même des personnages. Façonné par les séries américaines, avant même d'être né, Bouli, à l'état de fœtus dans Bouli année zéro, clin d'œil aux prequels, décrète vouloir s'appeler Steven. Comme la liste des personnages évoquée précédemment, le nom des personnages en majuscule, avant les répliques, compte parmi les conventions théâtrales que l'auteur ne manque pas d'exploiter, notamment ici pour rendre compte des luttes de pouvoir entre le créateur et sa créature, qui aimerait avoir son mot à dire quant au choix de son prénom. Le Bouli Miro, écrit en lettres capitales avant chaque prise de parole du personnage, théâtre oblige, marque incontestablement la victoire de l'auteur sur son héros, dont la carrière de star américaine est un projet mort dans l'œuf. Voilà, donc là c'est la naissance de Bouli. Le médecin Gunther à la maternité met fin au rêve de Bouli nouveau-né en lui annonçant que tout le monde désormais l'appellera Bouli et non Steven, ce que confirme l'indication Bouli Miro avant les répliques. Gunther, c'est pas facile la vie Bouli. Bouli, pourquoi tu m'appelles Bouli ? Parce que c'est comme ça qu'on va t'appeler. Bouli, c'est pas un prénom Bouli, moi je veux qu'on m'appelle Steven. Mais Fabrice Melchiot et Dominique Richard ne se contentent pas de cultiver l'irrévérence à l'égard des canons sériels. La série leur offre un espace privilégié pour mettre en évidence le passage du temps à travers les multiples métamorphoses qu'ils font subir à leurs personnages. Donc on passe au grand 2, instabilité et métamorphose du personnage sériel, une identité en chantier. La volonté ou les difficultés de grandir, constate Nicolas Faure dans son étude panoramique sur le théâtre jeune public, fait figure de constante thématique dans le théâtre jeunesse contemporain. Dans Bouli Miro, la question du passage du temps est exacerbée par les prises et les pertes de poids spectaculaires des personnages. Fabrice Melchiot tire parti de la myopie et de l'obésité de son héros, doublement placé sous le signe du grossissement, pour opérer un effet de loupe sur les deux principes structurels qui régissent toute série, entendu au sens de série feuilletonesque. D'un côté, la répétition et le retour au même, métaphorisé par la rondeur de boulie, et de l'autre, la logique évolutive, marquée par les métamorphoses incessantes des personnages. La logique de circularité régressive, confortée par des images et sonorités associées à la boule, bilboquet, bouleversé, redéboulé, chamboulé, est contrebalancée par l'instabilité pondérale et onomastique des personnages. Dire de Bouli qu'il fait le yo-yo est un euphémisme. Capable de fondre à la vitesse de la lumière dans le premier volume, il pèse 101 kg dans le troisième volet de la série. Dans Wanted Petula, la référence explicite à la série Hulk, où, sous l'effet de la rage et du stress, le docteur Banner se métamorphosait en titan vert, est un clin d'œil à la démarche même de Fabrice Melchiot, poussant à l'excès la logique de la métamorphose. Prenant à la lettre la métaphore du sociologue David Le Breton sur le corps adolescent comme champ de bataille de l'identité, l'auteur de Bouli Miro fait du corps de son héros une pâte à modeler, vouée sans cesse à se réinventer. Quant au combat sisyphéen que Bouli mène contre la graisse, il peut se lire comme un pied de nez à la croisade contre l'excès de lipides et de sucre qui, note l'historien Georges Vigarello, dans Les Métamorphoses du gras, conduit notre société à une stigmatisation du gros, associée à la grossièreté, à la paresse ou au manque de volonté. Dans la série de Fabrice Melchiot, la remise en question humoristique du culte de la minceur passe par la conversion du négatif en positif. Le gras se transforme en carburant qui anime les personnages. Envisagé sous un angle dynamique, la graisse circule d'un personnage à l'autre selon le principe des vases communicants. Donc c'est l'extrait suivant. Pétula, pourquoi tu maigris quand je grossis? Pourquoi je disparais quand tu pètes les balances? Boule de flipper géante, Bouli réunit en lui rondeur et fluidité et ne rentre dans aucun moule. Le potentiel sériel que recèle l'obésité de Bouli, gros de possible, est conforté par les variations onomastiques tout au long du cycle. Surnommé Bouli Mirovitch lorsqu'il a l'allure d'un gymnaste russe, il devient Bouli Mirwo avec deux O et un W dans la bouche de Sharon Stone. Chez Dominique Richard, donc on va vers cette deuxième citation, cette tension entre stabilité et métamorphose s'exprime non sur le mode du grossissement loufoque et potache, mais sur celui de la diffraction et de l'étiolement du sujet. Lorsque le miroir sera couvert de buée, peut-être que je me reconnaîtrai flou et déformé. Confie Hubert à son miroir. La continuité chronologique est troublée par un flou temporel, sans doute pour ne pas réduire la question du grandir au franchissement de différentes étapes. Le fait que les cahiers de Rémy, volume suivant le héros éponyme de ses 11 à 20 ans, soient suivis d'un retour à un épisode de l'école primaire avec les discours de Rosemary est symptomatique du refus de considérer l'enfance comme une simple étape à dépasser. Les personnages quittent l'enfance, mais par moments, ils y reviennent. Dans la saga de Grosse Patate, il s'agit tout autant de creuser la complexité des personnages par leur retour d'un volume à l'autre que de lutter contre le piège de la consistance, tentation qui conduirait à présenter des personnages trop caractérisés et dessinés, qui briderait par la même occasion la liberté d'un metteur en scène potentiel. Conscient que la récurrence des personnages de série peut conduire à figer et à solidifier les héros, l'auteur opte pour des modalités intermittentes et atténuées de retour des personnages qu'il enveloppe d'une substance vaporeuse. C'est d'ailleurs le terme de figure et non de personnage que Dominique Richard privilégie dans le paratexte des cahiers de Rémy. Cette notion de figure, qui fait l'objet des travaux critiques de Julie Sermon et de Jean-Pierre Ringart, renvoie dans le répertoire théâtral contemporain à la remise en question du personnage en tant qu'identité stable et support d'identification. Mais le rejet des attributs traditionnels du personnage ne va pas seulement dans le sens d'un épuisement, il permet aussi de donner à ces silhouettes troubles et évanescentes des fonctions centrales dans de nouveaux dispositifs narratifs et réflexifs. C'est la transition vers le grand 3, qui s'intitule donc « Dans les coulisses de la fabrication 2 en série ». Réflexivité du personnage théâtral. Dans Bouli Miro, le recyclage ou le coming back de personnages ou de célébrités est une manière humoristique de dénoncer les succès Kleenex et buzz d'un jour. À la fabrication à la chaîne de stars jetables, l'auteur oppose le bricolage à partir de matériaux déjà existants. Le bricoleur, si on le reprend la définition de Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, a pour règle du jeu, je cite, « de toujours s'arranger avec les moyens du bord, c'est-à-dire un ensemble à chaque instant fini d'outils, de matériaux hétéroclites au surplus. » Le mixage d'univers, de références, notamment générationnelles, auquel procède l'auteur de Boulimiro, repose sur la rencontre de personnages hétéroclites, donnant lieu à un ensemble bigarré propice au couac. À côté du sextuor récurrent de la série, parmi lequel on compte quand même une Petula Clark qui ne joue pas le rôle de Petula Clark, mais celui de la cousine du héros, on trouve des special guests censés jouer leur propre rôle, comme Sharon Stone, Sigmund Freud ou Neil Armstrong, des héros de classiques de la jeunesse, de la littérature jeunesse, comme Le Petit Prince. Parfois insaisissables pour le jeune lecteur, ces références intergénérationnelles sont indissociables de la réception même de Boulimiro, que l'auteur envisage comme un texte pour la famille, et non seulement pour le jeune public. Il s'agit aussi, à travers ce patchwork de références, de ne pas fondre les personnages dans un univers homogène et sans aspérité. L'auteur laisse apparentes les étapes de construction de ses personnages, qui sont toujours le fruit d'hybridation entre culture enfantine et culture adulte, culture savante et culture populaire. La part d'improvisation et de cuisine personnelle qui entre dans tout processus de fabrication de personnages se trouve ainsi exhibée. À défaut de pouvoir rivaliser avec le Petit Prince, Bouly impose sa marque de fabrique. Lui, au moins, il est authentique. « Je suis sûre que t'es un clone ou genre. Je suis sûre que t'as été fabriqué à Taïwan ou que tu t'es perdu dans l'exportation », lance-t-il au héros de Saint-Exupéry, imitation défectueuse de l'original. Que reste-t-il en effet de la matrice du Petit Prince, même si, rappelons-le, le livre a été conçu avant toute logique transmédiatique. Transformé par Melchior en idiot du village, n'ayant qu'une phrase à la bouche, « Dessine-moi un mouton ». Le Petit Prince, dont Bertrand Ferrier a mis en évidence l'étendue de la plasticité, est devenu une franchise, exploitant à plein la légitimité de l'œuvre originale, dans laquelle transparaît clairement, je cite, « la supériorité de la déclinaison sur le texte ». Et non sans humour, l'auteur de Boulimiro nous laisse imaginer la série impressionnante de dessins de moutons que le Petit Prince, dupliqué à l'infini, doit avoir accumulé depuis 1943, date de publication de l'original. « Tu veux pas me dessiner un mouton avant de partir, c'est pour ma collègue ?» demande-t-il à Bouly. Encore une fois, l'obésité de Bouly, face à qui le Petit Prince ne peut pas faire le poids, permet à l'auteur d'exhiber ce qui fait la particularité du personnage théâtral destiné à être incarné sur scène. Même si, pour reprendre l'expression d'Alfred Jarry à propos du but, Bouly est une abstraction qui marche, un pantin stylisé et déréalisé, il ne peut pas échapper en tant que personnage théâtral à l'incarnation, que ce soit dans le corps du comédien ou dans celui de la marionnette. Et si Fabrique Melchior éborgne cruellement le Petit Prince made in Taïwan, ne lui offre-t-il pas en même temps une seconde vie à travers ce petit rôle dans sa pièce ? L'auteur arrache en effet cette contrefaçon de mauvaise qualité à la logique purement utilitariste de la consommation, ce qui peut aussi s'interpréter comme une réaction humoristique à l'obsolescence programmée d'objets et de personnages. C'est également la réflexion que l'on peut se faire en lisant « Pinocque et Barbie », pièce de Jean-Claude Grimbert, dans laquelle Pinocque, vieux jouet en bois embarqué dans une collecte de charité à destination d'un pays pauvre, découvre dans la cale des milliers de Pinocchio entassés. L'auteur joue ici le jeu du support théâtral. Il exploite les conventions typographiques du théâtre, notamment les noms des personnages en majuscules avant les répliques, pour retranscrire le vertige causé par la vue de cette série de Pinocchio fabriqués à la scène. Premier Pinocchio, les autres Pinocchio, troisième Pinocchio. Ouh là là, on est où là? C'est tout sombre. Premier Pinocchio, au fond de la cave, au fond de la cale, mon pote. J'étouffe ici, moi. Quand va-t-on me donner ma cabine? Sa cabine? Non, mais il est louche, celui-là. D'où tu sors, petit rigolo? La revendication d'authenticité de Pinocchio, se targuant d'avoir été manufacturé à la main par un véritable artiste, est de plus en plus suspecte. Il ne s'agit pas ici seulement d'un clin d'œil au nouveau régime du jouet et à son insertion dans la culture médiatique depuis les années 70-80, pour reprendre les analyses de Gilles Brougère. La multiplication de Pinocchio est sans doute aussi une allusion au théâtre jeune public lui-même, qui, comme la production jeunesse dans son ensemble, ne se prive pas d'exploiter le filon des contes, avec des réécritures de Pinocchio, de Cendrillon, à même de plaire aux petits et aux grands. On notera néanmoins que si le théâtre jeunesse compte parmi les divers supports où se dupliquent et se transforment les personnages, ce secteur est pour le moment trop confidentiel pour initier un mouvement. Ce n'est pas demain la veille que Grosse Patate ou Bouli Miron seront à l'origine de produits télévisés. Dans la saga de Grosse Patate, la circulation des personnages d'un support à un autre se trouve comme prise en charge par les volumes eux-mêmes, dans une sorte d'intermédialité artisanale, à travers la récup de différents supports tels que les cahiers d'écoliers ou les croquis des héros. Il s'agit aussi, à travers ce travail sur les illustrations, d'émanciper le personnage de théâtre de la représentation scénique. Dans ses albums, Dominique Richard offre aux jeunes lecteurs des personnages de théâtre à lire et pas seulement à voir sur scène, même si cela n'est nullement incompatible avec une mise en scène ultérieure. Dans Les discours de Rosemary, la série de discours Fleuve de Rosemary se voit redoublée par une série de classiques de la peinture retouchés avec humour. L'héroïne se retrouve dupliquée dans « La liberté guittant le peuple » de Delacroix ou encore le portrait de Louis XIV en costume de sacre. Le jeune lecteur qui ne connaîtra pas nécessairement les toiles originales ou qui les aura vues sur d'autres supports entre ainsi directement dans le dispositif même de la production sérielle. Si ce n'est que dans la saga de Dominique Richard, nous avons affaire à une production ouvertement manuelle des toiles par le dessinateur Vincent Debat, clin d'œil possible à la revendication de singularité et d'authenticité du théâtre jeunesse contemporain. Donc, en conclusion, si le personnage de série se fait encore rare dans le théâtre jeunesse, les effets de série bien présents interrogent les conditions de production et de diffusion d'une niche, le secteur jeune public, sommé de faire beaucoup avec peu. Il s'agit bien de faire du feu avec du bois mouillé, pour reprendre l'expression de Nathalie Papin, auteure de théâtre jeunesse. Relever le défi de la sérialité permet aux auteurs de soulever les tensions du personnage théâtral entre abstraction et incarnation, laconisme et logorée, être pour la scène et être affranchi de l'impératif scénique. Le mixage de personnages issus d'horizons divers atteste aussi d'une hantise de la ghettoïsation de la part de ce micro-secteur, qui, tout en surjouant la posture périphérique et les maladresses artisanales, ne se coupe pas de pratiques médiatiques des jeunes. On citera à ce propos l'initiative de Bruno Castan, qui, dans « Neige écarlate », 1994, propose un montage où alternent héros de conte et héros de sitcom inspirés d'Hélène et les garçons. Reste qu'une telle démarche pose le problème de la pérennité de la pièce. Conscient que la référence à Hélène et les garçons contribue à dater la pièce dans les années 90, l'auteur se dit prêt à substituer aux scènes de la sitcom d'AB Productions toute autre évocation de soap opéra, feuilleton, sitcom, dominant les petits écrans lors du montage de la pièce. Si je finis sur la question de la difficile réappropriation par les metteurs en scène des textes de théâtre jeunesse, rarement remontés, c'est qu'elle questionne une opposition souvent établie entre le personnage de série et le personnage de théâtre. Dans un petit milieu comme le théâtre jeunesse, une fois qu'une pièce a été montée, la mise en scène est souvent connue de tous, ce qui peut expliquer une certaine réticence à reprendre un texte déjà adapté à la scène par un collègue ou ami. Si théoriquement, le personnage de théâtre, contrairement au personnage de série, est conçu pour être joué par un nombre d'interprètes potentiellement illimité, cela est donc moins vrai dans le secteur de théâtre jeunesse. Et voilà.